Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Pascal.
Eh bien, bonsoir Caroline. Je vous remercie de me prendre à l'antenne ce soir.
Mais vous êtes bienvenue.
Beaucoup Paul pour sa gentillesse. Alors, j'ai essayé de rassembler un peu d'idées pour ne pas partir dans tous les sens. Mais
non, vous inquiétez
pas. Je voudrais ce soir vraiment témoigner sur le droit des papas dans les divorces conflictuels.
Oui.
Et en fait, donc nous avons deux enfants et pour lesquels je demande avec force la garde alternée.
Oui.
Parce que je m'en suis toujours beaucoup occupé. Je suis très proche d'eux. Et pour résumer, la situation, nous sommes séparés avec mon ex-femme depuis 2 ans.
D'accord.
Et comme je le disais, donc nous sommes dans une procédure de divorce très conflictuelle. Alors depuis la naissance des enfants, donc les enfants ont un peu plus de 6 ans maintenant. Oui, ce sont des jumeaux, oui.
D'accord.
Et donc la vie à la maison était complètement infernale. Je pense essentiellement parce que nous avions des conceptions, j'ai envie de dire, différentes de la famille, du rôle du père, du rôle de la mère.
Et des jumeaux, de mon côté, c'est pas simple aussi.
Non, c'était pas ça. Mais c'était pas simple, ça c'est sûr, mais c'est pas ce qui m'a le
C'est vraiment des. Vous aviez une vision radicalement différente de l'éducation.
Oui, tout à fait. Enfin, moi, vu de mon côté, j'avais l'impression d'être avec une femme qui voulait tout imposer par rapport aux enfants et que le père devait être là uniquement pour l'intendance, en fait. Et qui avait tendance à isoler les enfants de tous les proches, en fait. Et donc, cette vie étant infernale, j'ai annoncé à ma femme ma volonté de divorcer, dans le cadre d'un divorce à l'amiable. J'avais simplement dit, par contre, que je souhaitais la garde alternée des enfants.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, donc, elle a commencé à aller à la gendarmerie pour monter un dossier, mais complètement diffamatoire, en parlant de violences physiques, psychologiques, financières, enfin vraiment.
Violence physique contre elle.
Oui, contre elle. Oui, contre elle.
Mais pour monter un dossier, violence physique, ça veut dire qu'il y a des certificats médicaux.
Il y en a eu. Disons que pas pour les violences physiques, mais c'était surtout pour psychologique. Elle allait voir je ne sais combien de médecins en disant que j'exerçais des pressions sur elle, qu'elle allait plus bien, etc. Enfin, ça le dossier, j'ai je ne sais combien de pages. D'ailleurs, les médecins disaient Madame nous déclare que, nous déclare que, nous
oui,
déclare que.
Oui, ils étaient prudents, en fait. C'était
ils étaient prudents, là. Et dans tout ça, en fait, j'ai donc elle allait voir donc aussi une association de défense des femmes. Enfin, bon, j'ai monté un dossier assez hallucinant. Mais enfin, bon, bref. Dans tout cela, j'ai quand même une chance extraordinaire, c'est que j'ai le soutien de ma belle famille qui a pointé justement ses fragilités. Et notamment le fait qu'elle était sujet en psychiatrie depuis une vingtaine d'années, qu'elle s'est coupée aussi de ses parents. Je connais pas mes ex-beaux-parents, par exemple, parce qu'elle m'a toujours parlé de violences qu'elle avait pratiquées, violences maternelles, en fait. Elle s'est coupée de sa sœur aussi depuis la naissance des enfants. Et pourtant, sa sœur, c'était la personne la plus importante pour elle. Hein, comme j'expliquais, elle a voulu nous isoler un peu de tout le monde. Alors quand je lui ai annoncé le fait que j'étais décidé de divorcer, toujours dans un divorce à l'amiable, elle a contacté par son avocate directement le TGI pour lancer une procédure de divorce pour faute.
Elle n'a pas supporté quand vous lui avez annoncé que vous vouliez divorcer. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue.
Je pense. Et puis ce qui s'est passé, c'est que. Quand je lui ai annoncé, c'était fin 2017, que je souhaitais divorcer, j'avais recontacté, c'est là que j'ai repris contact avec ma belle famille et mon ex-belle-sœur m'a dit, tu sais, on s'est aperçu, évidemment, qu'il y avait des problèmes depuis la naissance des enfants, mais t'inquiète pas, on va tous s'y mettre, on va essayer de la rassurer, on va y arriver. Bon, j'avoue que ça m'a donné un peu de confiance, mais par contre, c'est vrai que cette dernière année, j'avais clairement décidé de ne plus me laisser imposer les choses. Je souhaitais notamment vraiment fortement que les enfants connaissent leur famille. Pour moi, c'était quelque
chose. Oui, ça ne vous avait pas. Elle en parlait comment parce que vous dites vous ne connaissiez pas votre belle famille avant
Mes ex-beaux-parents, je ne les connaissais pas.
Mais c'est quand même pas banal.
Ah non, c'est, non, c'est
comment
pas
elle en parlait que, quelle raison oui. invoquait-elle
ah,
pour
bah,
que...
elle me disait toujours, j'ai une mère folle, j'ai un père lâche, et j'ai vécu des violences de la part de ma mère. Et c'est vrai que par contre, moi, du moment qu'elle parlait de violences de violences maternelles, j'ai jamais essayé de bousculer les choses. J'ai respecté ça, je me...
Oui, elle n'en disait pas plus autour de ses
parents. Non, elle en disait. Alors, elle me donnait quelques exemples, mais
peut-être disait-elle quelque chose de sa vérité à elle, de quelque chose qu'elle a perçu comme violent dans son environnement familial. En tout cas,
Sûrement, mais j'avoue que j'ai jamais creusé ce oui, pont c'est... parce qu'on avait quand même des très bonnes relations avec quand je dis sa sœur, c'est sa famille bien évidemment, hein, et les neveux, etc.
Oui, elle était en lien avec sa sœur. Qu'est-ce qu'elle vous en dit, sa sœur, aujourd'hui, puisque
sa sœur qui était plus grande, elle est de 5 ans son année, est partie beaucoup plus rapidement de chez ses parents. Sa sœur aussi il me critiquait qu'effectivement il y avait vraiment des problèmes du côté de leur mère en fait.
Il y a un fond de vérité. Il y a une souffrance chez votre ex-femme de ce côté-là.
Il y a une souffrance énorme. Maintenant, je dois reconnaître aussi que je relativise un peu ce qu'elle a pu me raconter parce que quand je vois ce qu'elle était capable de raconter sur moi, voilà, ben je pondère un peu ce qu'elle a.
Mais qui est quand même accrédité par votre belle-sœur qui dit qu'il y a un problème, alors même du côté maternel, ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'elle est c'est un peu rapide, hein, mais surinvestit cette fonction maternelle, peut-être, en compensation.
Je ne maîtrise pas tout à fait le domaine, mais moi effectivement j'ai l'impression qu'elle voulait absolument être une mère idéale.
Mais
par contre, je vais rajouter quelque chose, mais sans savoir ce qu'était une mère.
Vous avez raison, elle s'est construite une image idéale.
Voilà. Et c'était une image idéale et dans laquelle, très clairement, le père n'était pas là.
Peut-être comme dans son histoire à elle d'enfant. Avec une mère qui captait les enfants et qui laissait le père sur la touche.
Je ne connais pas suffisamment.
Mais non, bien sûr. Mais c'est bien compliqué pour vous. Ce sont des petits garçons, des petites filles.
C'est un petit garçon, une petite fille.
Vous avez un petit garçon, 6 ans
maintenant. Oui.
Et où vous en êtes alors depuis procédure Est-ce que vous avez vu un juge aux affaires familiales?
On a vu un juge il y a 2 ans. Alors qu'il y a dans son ordonnance provisoire qui a dit qu'il n'y avait aucune preuve de toutes les allégations de mon ex-femme, mais par contre qu'on ne pouvait pas. Moi, je demandais la garde alternée. Elle demandait ce que je vois les enfants milieu médiatisés. Enfin, c'est complètement fou. Et donc,
compris. Elle demandait ce que les enfants
que je vois les enfants milieu médiatisés. Le juge a simplement dit qu'il ne reconnaissait pas qu'il y avait aucune preuve. Mais par contre, qu'on ne pouvait pas mettre en place une garde alternée comme je le demandais, parce qu'il y avait une mésentente entre les parents.
Oui, malheureusement.
Et moi, je trouve que déjà, c'est une conclusion qui n'est pas correcte parce que dans ce cas-là, vous avez le parent et les enfants qui ne fait strictement aucun effort pour arranger la situation. Strictement aucun. Et je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Parce que de mon côté, je ne lâcherai pas le morceau. Mes enfants, j'y tiens énormément. Et je serai toujours sur la voie de la garde alternée.
Mais vous avez. Alors, il y a plusieurs points. Je comprends que ça soit extrêmement douloureux pour vous et que vous ne vouliez pas lâcher et que vous ayez à cœur d'être présent comme vous l'avez été jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 2 ans dans l'éducation de vos enfants. Cela dit, le point de vue du magistrat se comprend. Et là, c'est en tant que psychologue que je parle aussi. Pour qu'il y ait une garde alternée, parce qu'évidemment c'est souvent le souhait des parents, c'est très dur d'être, parce qu'on se sépare, exclu du quotidien de l'enfant, de ne plus pouvoir être là dans son présent et de veiller sur lui, d'avoir des journées entières passées avec lui. Mais une garde alternée suppose qu'il y ait une relative bonne entente avec entre les parents, parce qu'il faut pouvoir dialoguer. C'est-à-dire que les enfants, on ne peut pas se les passer comme des paquets. Et la garde alternée, dans un contexte extrêmement conflictuel, les enfants sont complètement, si vous voulez, surtout quand ils sont petits, évidemment avec des enfants plus grands, il faut qu'il y ait des échanges pour qu'il y ait une certaine continuité. Alors après, les parents peuvent avoir des modes éducatifs différents dans la semaine ou les jours où ils ont l'enfant. Mais il faut qu'il y ait un minimum de dialogue, Pascal, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'ils ont essayé au départ, il y a eu des gardes alternées de mise en place, mais où les parents enfin, ne pouvaient tellement pas se parler, ni même se voir, ils pouvaient plus s'encadrer, comme on dit familièrement, que l'enfant était déposé en bas de l'immeuble ou en bas de l'ascenseur, et il n'y avait même pas un bonjour, comment s'est passée la semaine, et l'enfant sait lui faire violence. Et si vous voulez, le magistrat, il se pose toujours au-delà du conjugal, il essaye toujours de voir l'intérêt de l'enfant.
Oui, mais je comprends et je ne comprends pas, parce qu'encore une fois, donc c'est ce qu'on m'avait expliqué. Vous savez, j'étais allé voir une association de défense des pères et qui m'avait dit, bah, écoutez, si la mère s'oppose à la garde alternée, vous ne l'aurez pas. Statistiquement, vous ne l'aurez pas. Et je veux dire que c'est d'une violence pour les papas. Je dis pour les papas parce qu'en général, ça se passe dans ce sens-là. Et c'est d'une violence pour les papas. C'est inimaginable. Moi, mes enfants, je m'en suis toujours énormément
occupée. Je comprends.
Parce que je sais aussi qu'il y a des papas qui se découvrent père au moment du divorce. Je sais, tous les cas sont possibles. Mais je veux dire que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Très clairement, je sais pas comment le dire.
Et non, mais vous avez raison de défendre votre position et de faire valoir vos droits. Et d'abord, c'est bien pour vos enfants. Si vous voulez, le problème, c'est que quand on est dans un contexte presque de guerre conjugale, en fait, qui souffre ? Vous souffrez, hein ? Je l'entends beaucoup.
Ouais.
Mais qui souffre aussi ? Les enfants. Oui, mais... Et en fait, ce qui est terrible, les juges aux affaires familiales voient dans leur bureau des parents qui se livrent une guerre, il n'y a pas d'autre mot. Presque, finalement, ils sont tellement... obsédés par leur histoire personnelle, leurs conflits conjugaux, qu'ils en oublient ce faisant, alors qu'ils aiment leurs enfants, l'un et l'autre, qui leur font un mal fou. Et dans ce contexte-là, pour revenir à la garde alternée, on va en reparler après les infos de 23h, mais il faut trouver un minimum de terrain d'entente, et on va en parler après les infos de 23h. Restez bien avec nous.
22h, minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Parce qu'il est parfois plus simple de se confier à quelqu'un d'extérieur. Chaque soir sur RTL, de 22h à minuit et demi, je suis à l'écoute de tous vos questionnements concernant votre vie sentimentale, familiale ou professionnelle et je vous propose mon éclairage. Aucun sujet tabou dans Parlons-nous. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé et à tout moment, vous pouvez réagir à un témoignage en appelant le standard de Parlons-nous et vous vous retrouvez à l'antenne avec nous. Vous pouvez envoyer aussi un petit SMS au 64 900. N'oubliez pas de taper les trois lettres d'RTL au début de votre message, 35 centimes par SMS. Vous pouvez également nous écrire sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et on va retrouver Pascal. Pascal, merci d'avoir patienté pendant les infos. Alors, depuis 2 ans, vous vivez un divorce extrêmement conflictuel avec votre ex-femme qui, finalement, fait tout pour, au fond, vous désavouer et vous demander la garde alternée. Le juge aux affaires familiales vous a dit que dans ce contexte extrêmement conflictuel entre vous deux, la garde alternée n'était pas envisageable pour le moment. Finalement, qu'est-ce qui a été décidé ? À quel rythme voyez-vous vos enfants en ce moment, Pascal ?
Alors, bah, c'est une garde, j'ai envie de dire, classique. Je les vois une fois tous les 15 jours, et puis donc la moitié des vacances scolaires. Et alors moi, je comprends que votre argumentation, qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de terrain d'entente, oui. Mais vous savez, ce genre de discussion, de décision plutôt, ça favorise quand même la toute-puissance d'un parent. Et je veux dire que depuis 2 ans, la seule discussion, le seul moment où il y a une discussion, c'est quand le juge, justement, a imposé que j'ai les enfants à la moitié des vacances scolaires. C'est la seule fois où mon ex-femme m'a écrit en me disant « Tiens, j'aimerais qu'on s'organise pour les vacances scolaires et j'aimerais qu'on regarde à quel rythme on peut appeler les enfants. » C'est la seule fois. Ensuite, il n'y a jamais eu d'autres discussions. Et je pense que, très clairement, elle n'a pas d'intérêt à cette discussion. Et quand vous dites il faut essayer de mettre en place une discussion, comment ? C'est ma question.
Par le biais d'une médiation.
Alors la médiation.
Je crois beaucoup à la médiation.
Alors moi sans aucun problème, la médiation, c'est vrai que pour le moment elle n'a pas été, il n'y a pas de médiation qui a été mise en place.
Ça n'a pas été proposé.
C'est un peu surprenant. Mais de toute façon, dans le cas de ce dossier, je n'y crois pas à la médiation. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique.
Vous parlez d'un dossier. Il y a vos enfants derrière.
Oui, tout à fait. Mais je vous explique.
Vous savez, Pascal, attendez. Je veux juste vous dire une chose parce que je veux y revenir par rapport à la garde alternée. C'est très dur quand on se sépare, même quand on essaie de le faire au mieux. Et il y en a toujours un qui souffre plus que l'autre. Et qu'il y a des enfants au milieu, petits, avec des adolescents, bon, il y a plus de marge de manœuvre de leur côté. De voir l'autre régulièrement, de devoir parler de l'intendance, finalement, de choses, alors qu'au fond, on a tant de choses encore sur le cœur. Et dans la garde alternée, ça suppose qu'on va le voir très régulièrement, et qu'on va devoir échanger très régulièrement sur justement le quotidien pour qu'il y ait, dans l'intérêt des enfants, une continuité. Et parfois, on a vu des gardes alternées se mettre en place un peu plus tard, quand au fond, chacun avait digéré un peu la séparation et ce qui relevait du conjugal. Et la médiation, alors j'entends vos réticences, mais pour avoir parlé avec un médiateur, je me souviens une fois d'un entretien que j'avais eu avec lui à l'antenne, il me disait qu'il voyait des couples arriver où franchement, eux-mêmes, ils se disaient « c'est pas possible, on va pas y arriver, je vois pas ce qu'on peut faire » lors du premier échange. Des couples qui parfois, même physiquement, enfin, ne se regardaient pas, ne pouvaient même pas se regarder dans les yeux, tellement il y avait d'hostilité. Eh bien, il me disait qu'en fait, c'était parfois sur ces couples-là qu'ils ressortaient des choses où ils arrivaient à trouver un terrain d'entente pour les enfants. Et finalement, des relations cordiales où des choses avaient pu être dites. Parce que les médiateurs, ils sont pas là pour travailler sur le couple, puisque le couple, de toute façon, il est séparé. Mais pour essayer d'avoir, face à ces deux parents qui sont en souffrance et qui aiment tous les deux leurs enfants et essayer de trouver le mieux, sans se sentir lésé, un terrain d'entente pour les enfants. Et je vous assure que franchement, moi je tire mon chapeau à ces personnes qui font de la médiation, parce qu'elles ont souvent des situations extrêmement conflictuelles, comme la vôtre, et parfois, et même plus souvent qu'on ne le pense, il arrive à en sortir quelque chose.
Moi j'avoue, dans le cas de divorce que je suis en train de vivre, j'avoue que je n'y crois pas trop, parce que moi j'ai une demande sur laquelle je ne reviendrai pas.
C'est quoi votre demande?
Ma demande, c'est de pouvoir accompagner mes enfants, c'est-à-dire d'avoir cette garde alternée, de les voir régulièrement.
Oui, mais si vous voulez, vous avez une demande. Ouais. J'entends votre demande, elle est légitime. Mais il faut voir aussi concrètement ce que ça suppose. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez plus aucun dialogue avec votre ex-femme.
Oui, c'est vrai. Hein.
Vous n'avez plus aucun dialogue. Et les enfants, comment? Alors, pardonnez-moi, je vais être triviale. Vous allez vous les refiler comment? Et j'utilise volontairement ce terme de façon extrêmement triviale. Parce que justement, ce sont des enfants. Et des enfants, s'ils sont face à des parents qui peuvent même plus se regarder dans les yeux, qui n'arrivent pas à se dire deux mots, les enfants, ils sont ballottés. Ils sentent bien, il n'y a pas d'échange. Il y a d'un côté, il y a papa, il y a maman, et c'est la guerre. Et eux, ils sont au milieu.
Mais ils sont déjà au milieu des Alpes, tu sais.
Ben justement, pour eux, ça vaut le coup une médiation. C'est-à-dire qu'au fond, d'essayer de trouver au moins, puisque vous deux, vous n'arrivez plus à vous parler. Il y a trop de souffrance de part et d'autre. Oui. Et les médiateurs, ils sont là pour vous aider un peu à vous parler, à trouver au moins ce terrain d'entente pour vos enfants. Parce que vous souffrez beaucoup en tant que père, et je le comprends, évidemment, que vous vous sentiez exclu de la vie de vos enfants et que c'est très douloureux de les voir seulement une fois tous les 15 jours et pendant les vacances scolaires. Je comprends ça. C'est vrai que c'est insupportable. Mais si il n'y a pas quelque chose de tenter, et au moins vous pouvez le proposer, déjà ça montre votre bonne foi. De dire, essayons au moins, essayons. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer?
Ah non, mais moi j'ai rien à perdre, c'est encore ce que je disais à mon avocat il y a quelques temps, il y a à peu près un mois et demi, je lui ai dit, mais moi je suis tout à fait ouvert à une médiation, mais vous voulez que je propose? Moi, je peux proposer tout un tas de choses dans la médiation, mais je ne peux pas reculer sur ce qui m'importe le plus pour les enfants, c'est-à-dire, je pense
bon, vous partez sur la médiation, mais avec l'idée, en fait, c'est pas d'une médiation, vous vous disiez, je veux ça. Ma femme veut ça. Et vous oubliez... Non, mais pardonnez-moi. Oui. Pardonnez-moi, ces sujets me tiennent extrêmement à cœur parce que moi, j'ai travaillé en tant que psychologue beaucoup avec des enfants et des adolescents. Et j'ai vu... Souvent, ce qui me déchirait le cœur, c'est de voir à quel point les enfants étaient en souffrance, ou parfois, j'ai vu des enfants où il y avait les habits quand ils étaient chez papa, les habits quand ils étaient chez maman, parce que c'était insupportable pour l'un des parents, c'était ça, c'est ta mère ou c'est ton père qui l'a acheté, tu le portes pas chez moi. Ou des enfants qui étaient remis devant l'immeuble, même tout petit, ou en bas de l'immeuble, parce qu'ils disaient je ne peux pas parler à ta mère ou je ne peux pas parler à ton père. Les enfants dans le cabinet, ils sont en larmes, ils l'expriment en disant, ils expriment beaucoup de choses autour de ça. Et finalement, quand on voyait les parents, ce qui était terrible, c'est que l'un et l'autre, il n'y avait aucune raison de mettre en doute l'amour qu'ils portaient à leurs enfants. L'un et l'autre. Mais ils ne mesuraient pas un seul instant pris dans leur conflit et dans leur droit vis-à-vis des enfants qui leur faisait un mal infini.
Mais ça, j'en suis bien persuadé. Mais alors,
tant que vous raisonnerez sur le juridique, j'entends ça. Moi, je vous parle en tant que psy. Que vous raisonnerez sur ce côté, je veux ça. Ben vous l'obtiendrez pas.
Non, j'ai pas dit ça. Je dis simplement que vous voulez que je négocie quoi. Moi, je suis capable de, enfin, plein de trucs, mais ça, je suis énormément attaché. Mes enfants, par exemple, je sais qu'ils vivent une situation très compliquée. Mais mes enfants, vous pourriez venir voir à la maison. Ma fille a une photo de sa maman dans sa chambre. Il y a encore des photos de leur maman de partout dans la maison. Les enfants, ils viennent systématiquement avec des doudous de leur maman, avec des t-shirts de leur maman, avec du parfum, etc. Ils l'ont toujours. Oui. Jamais je me suis amusé à leur enlever quoi que ce soit. Bon, mais vous voulez que... Le problème, la question, c'est finalement... Ce pourquoi j'appelle ce soir, quel est le droit des papas là-dedans?
Bon, mais Pascal, voilà, on ne s'entend pas en fait. On arrive, c'est ça, on ne s'entend pas. C'est-à-dire que tant que vous aurez cette... J'entends qu'il y a derrière, et je sais qu'il y a l'association SOS Papa qui existe. Et je trouve que finalement, ce que peuvent faire les avocats, au lieu d'essayer de parfois de trouver un terrain d'entente en pensant à l'intérêt de l'enfant, ce que font les magistrats? Parce qu'ils voient trop de parents qui se déchirent. Moi, ma position, là, elle est en tant que psychologue. Et le problème, bien sûr qu'il y a des abus, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que si on a d'un côté le droit des papas, de l'autre, le droit des mamans, ben moi je vous dis, et le droit des enfants dans tout ça. Les enfants, ils ont le droit d'avoir deux parents qui, même séparés, puissent continuer au moins à avoir un minimum de communication par rapport à eux. Parce qu'à un moment, sinon, on leur dit clairement, les enfants, ils le comprennent très bien, il y a deux camps. Et oui, on leur demande d'une certaine façon de choisir leur camp. Et c'est comme si on les amputait d'un bras.
Mais je comprends. Mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, mes enfants, à chaque fois, à chaque visite, me demandent pourquoi on passe plus de temps chez maman qu'ici. Je leur réponds quoi aux enfants?
Ils vous disent ça?
À chaque fois.
On va aller voir du côté de la page Facebook et puis on va voir Joseph également qui veut réagir à votre témoignage. Et je vous propose qu'on l'écoute ensemble.
D'accord.
Alors Jacques, dans un premier temps, qui dit attention, ça peut devenir trop passionnel tout ça. Il faut prendre un peu de patience, prouver votre sérénité en démontrant un minimum de recul, ce qui ne signifie en aucun cas un désintérêt pour vos enfants. Il faut désamorcer le conflit en vous montrant conciliant et diplomate. Il y a Guy qui est à peu près sur la même longueur d'onde, qui dit je comprends et je vous soutiens Pascal dans vos requêtes. Je ne doute pas de l'amour que vous avez pour vos enfants, mais... ça passera aussi avec un minimum de concessions auxquelles vous devez consentir pour que votre divorce se passe du mieux possible et que ça ne devienne pas une double peine pour les enfants. Il y a Olivier aussi qui dit « Moi, j'ai obtenu une garde alternée dans un cadre conflictuel parce que j'ai démontré une telle volonté d'arranger les choses que la juge a été convaincue. Et j'ai réussi. Et aujourd'hui, la maman me remercie de m'être battue à l'époque contre sa demande. J'ai vécu la même chose, le même sentiment d'injustice et d'être nié en tant que père jusqu'à preuve de ma valeur par dossier de justice. » Alors, Olivier souhaite pas passer antenne, il a peur d'être connu, mais il dit si vous voulez m'appeler, vous pouvez, je laisse mon numéro de téléphone, je peux vous remonter le moral, c'est possible, vous ne devez pas regarder les statistiques, dit Olivier.
C'est important de voir comme il peut y avoir des retournements de situation hein, dans ce que nous dit Olivier. Alors en même temps, avant qu'on accueille Joseph qui veut vous témoigner de son soutien, Pascal, j'entends aussi dans ces situations parfois des pères qui malheureusement... suite à une séparation, baissent les bras et finalement disent j'y arrive pas, il faut se battre avec la justice, j'ai l'impression qu'au fond on m'exclut et je suis la première, croyez-moi, à les encourager justement à leur dire peut-être de se faire aider mais de faire valoir leurs droits de père quand il y a des mères qui malheureusement veulent complètement capter les enfants et exclure le père. Parce que ce sont des situations qui peuvent arriver, des situations de répétition et qui sont toujours source de souffrance pour les enfants.
Et c'est arrivé dans mon cas d'ailleurs. Mais bon, bref.
Et donc finalement, bien sûr que c'est important de vous faire entendre et de vouloir et de revendiquer votre place de père, parce que c'est important aussi pour vos enfants. Mais il y a finalement des stratégies, il y a des façons de le faire. Là, depuis 2 ans, vous êtes dans le conflit, vous êtes dans l'opposition, ça ne marche pas. Donc à un moment, quand quelque chose ne marche pas, il faut essayer de le prendre sous un autre angle. Vous voyez ? Et dans l'histoire de la médiation, déjà, vous faites preuve de votre bonne foi et de dire bon, on n'y arrive plus. Moi, voilà ce qu'on propose et vous pouvez le dire via votre avocat. J'aimerais qu'on trouve au moins un terrain d'entente. Si votre femme refuse, ça montre qu'elle, elle veut pas. C'est à la limite un argument de plus en sa défaveur. Et en tout cas, il faut réessayer. Et comme le disait Olivier, au final, son ex-femme l'a remercié, au fond, de s'être battue et il y a des choses qui peuvent évoluer. C'est pas immuable. Mais si vous voulez, à un moment, il faut peut-être changer d'angle et de point de vue. Et puis, parfois aussi, être un peu accompagné sur le plan personnel pour parler de votre souffrance. Et c'est regrettable que votre ex-femme ne le fasse pas parce qu'elle a une histoire bien compliquée. Et cette histoire, malheureusement, pèse terriblement sur ce que vous êtes en train de vivre et sur ce qu'elle est en train de faire vivre à vos enfants. Et c'est là où l'entourage, plutôt que de se jeter dans la bataille, parce que parfois on voit des familles qui se jettent dans la bataille pour défendre leurs enfants ou leurs petits-enfants, et prennent un peu de recul et disent « Pensez aux enfants, je vous en prie, et tu souffres, oui, mais fais-toi aider, essaie de trouver une autre approche, parce que c'est toujours possible. » Vous voyez, il ne faut pas partir... Bon, mais on va accueillir Joseph, parce que le mieux, c'est encore d'entendre l'expérience. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, Joseph.
Bonsoir, Caroline.
Merci beaucoup d'avoir appelé pour apporter votre soutien à Pascal.
Oui. ça m'émeut beaucoup, parce que moi, je suis passé par là il y a une dizaine d'années. Maintenant, les choses sont apaisées avec des enfants qui ont 22 et 18 ans. Mais en fait, c'est un avocat qui nous avait dit de renoncer à la... garde alternée, parce que c'était très compliqué, justement, on était dans un conflit. Mmh. Et ce que je voulais dire à Pascal, c'est qu'en fait, alors Caroline me contrôlera, en fait, j'imagine, c'est que le rôle du père et de la mère n'est pas tout à fait le même. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué.
Oui.
Bon, alors j'ai suivi une thérapie, donc ça m'a beaucoup aidé aussi dans ces moments-là, évidemment. Vous pouvez tout dire, c'est l'avantage, votre colère. Et puis, alors, il ne faut pas que les ressentiments du couple qui se sépare viennent se mettre là-dedans. Sinon, c'est foutu. dessus, si je puis dire.
Et c'est très compliqué quand on se sépare.
C'est compliqué. Et puis après, au final, je vais vous dire, c'est des enfants qui ont 6 ans, c'est ça?
Oui. Oui.
Vous allez pas perdre votre place. En fait, c'est la qualité des choses qui vont faire l'échange avec vos enfants dans votre rôle de père. Ça peut être plus sporadique avec un père, c'est ce que j'ai compris, en fait. Plutôt que d'avoir des valises à aller chercher le vendredi, le lundi, vous imaginez les vacances scolaires, en ce moment en plus, je vous raconte pas. Et moi j'étais comme vous, je me suis rapproché d'associations, je me dis c'est pas normal, c'est dégoûtant, c'est toujours la même chose. Mais en fait c'est quelqu'un qui vous a dit de renoncer à ça, c'est un juge pour l'instant ou c'est... Ça s'est fait comme ça.
Non, c'est pour le moment, c'est l'ordonnance provisoire d'un juge.
Ben, moi, je me rapprocherai en fait de Caroline. Je pense que ça a une importance. En fait, c'est pas de votre fait, du coup, vous renoncez à rien. C'est quelqu'un qui, au-dessus de vous, qui vous dit quelque chose. C'est pas si mal, en fait. Parce que moi, j'ai ravalé ma salive, effectivement. Mais au final, les moments que j'ai passés avec mes enfants étaient vraiment précieux. Alors je suis d'accord, on souffre parce qu'on se dit je les vois plus le matin, je les vois plus le soir, ils dorment plus chez moi et tout ça. Mais sur la longueur, je vous assure, j'ai été reconnaissant envers cet avocat parce que il me l'a dit d'une telle manière qu'en fait j'ai compris que c'était la bonne solution. Par contre, il y a une chose que je voulais vous demander, est-ce que vous êtes à côté?
Oui, on est à 12 kilomètres.
Bon, alors voilà. Alors vous verrez que si dans cette chose. Après, c'est des choses, une fois que c'est tous les 15 jours, mais en fait, c'est pas aussi raide que ça. Mais au début, même pour l'enfant, moi, j'ai été ravi. Et quand vous disiez, vos enfants vous demandent pourquoi ils sont si longtemps chez leur mère, après tout, il faut aussi les rassurer là-dessus. Hein. C'est-à-dire que c'est leur maison. Si vous identifiez pas la maison de leur mère comme un lieu sûr et... sécuritaire, je dirais, pour eux, ça va poser des problèmes aussi. Ils vont déjà être ballottés, en fait. Si vous n'êtes pas tranquille. Enfin, moi, je suis enfant de divorcé.
Vous avez raison. C'est important. Oui, vous êtes enfant de divorcé.
De divorcé. La chose qui me troublait le plus, c'est quand mes parents se battaient, pour pas dire autre chose. Parce que ça infuse de partout. Hein. C'est un regard.
Ou un non-regard, une impossibilité de se regarder.
Oui, et puis, c'est des petites remarques. Ça passe. Et en fait, c'est pas réglé. Mais ça, il faut du temps.
Mais oui, il faut du temps, bien sûr.
Il faut du temps. Oui. On ne rompt pas la famille. Vous n'allez pas rompre. Vous serez toujours, on le dit souvent, leurs parents. Et vous allez devenir de plus en plus important pour eux. Oui. Mais c'est vrai que sur les petits-enfants, ce n'est pas pareil, en fait. Mais ça vient. Ça vient. Patientez. Enfin, moi, je vous conseillerais de patienter. Voilà.
Vous avez dit quelque chose de très important, Joseph, d'emblée à Pascal, c'est vous ne perdez pas votre place.
Non.
Parce qu'on sent, c'est ça en fait.
Ressenti la même chose. Ben, oui, c'est très douloureux.
Hein. Oui, c'est douloureux. Et comme vous dites, avec des petits enfants, il y a ce quotidien qui est très précieux, être là au moment du coucher, être là quand si on peut, il y a le moment du bain, il y a ce moment de la petite histoire, il y a plein de moments comme ça où on se dit tous ces moments qui nous sont volés. Et on sent, Pascal, je ne sais pas si ça vous parle, cette histoire de place, parce qu'on sent derrière, il y a une grande souffrance chez vous qu'on entend, et une profonde angoisse aussi. Et vous l'avez, votre place.
Et vous ne la perdrez pas, en fait. Je vais même vous dire qu'après, au bout de quelques temps, j'étais même plus disponible, vous voyez, parce que il y a un avantage à ça aussi, c'est-à-dire que ce quotidien, vous ne l'avez pas. Alors, il faut voir le bon côté des choses. Hein. J'imagine que vous travaillez, je veux dire, c'est aussi très astreignant. Moi, je n'aurais pas pu, c'est d'ailleurs ce que l'avocat demandait, être là à 16h30 à la sortie des écoles, etc. Il aurait fallu que je prenne quelqu'un. C'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place.
C'est très contraignant, la garde alternée, oui.
Ah mais oui, j'ai réfléchi. Là. Moi, j'ai un travail qui me permet de le faire, en fait, hein, de m'organiser une semaine sur deux, mais... Mais j'entends ce que vous dites, mais
c'est hyper douloureux.
C'est non seulement hyper douloureux, mais les moments que je passe avec mes enfants sont des moments extraordinaires, très forts.
Alors,
Je pense même beaucoup plus fort, comme vous dites, que si j'avais la garde alternée, parce que ça serait plus dilué. Mais là, dans le dossier que je me suis repris la semaine dernière, j'ai une nouvelle rubrique qui s'appelle « Sur le mauvais traitement des enfants ». Où on me dit qu'à chaque fois que je rends les enfants, ils ont des bleus partout, qu'ils n'arrivent plus à dormir, etc.
Oui, ça, c'est insupportable.
Moi j'ai 4 pages.
Il faut que votre avocat... Non, non, mais là, il faut que votre avocat...
Ça va pas du tout.
Et là, il faut ressaisir le juge aux affaires familiales. C'est terrible et ça ajoute déjà... Déjà, vous souffrez beaucoup. Ça ajoute beaucoup d'angoisse. J'entends bien qu'il y a du côté une volonté de vous disqualifier. Et là, c'est impossible et vous avez raison de vous battre d'une certaine façon parce que si vraiment la mère est dans cette dynamique-là, dans cette problématique-là plus exactement, ou de quoi parle-t-elle au fond ? Peut-être qu'elle parle de son histoire à elle d'enfant, qu'elle nage en pleine confusion, donc il est important que vous soyez là en tant que père et que vous teniez votre rôle de père pour les enfants. Mais à ce moment-là, il faudra peut-être demander... via vos avocats, des expertises psychologiques, démêler de ça, et peut-être je vous dis qu'on arrive à dire qu'il faut qu'on vous... Peut-être qu'on l'impose même à la mère une médiation, en disant écoutez madame, ça suffit, vos allégations sont fausses, en revanche, vous êtes dans une grande souffrance, faites une thérapie, ça peut être dit même ça part, on vous conseille vraiment fortement cela, voyez. Là, il faut que votre avocat monte au créneau, parce que s'il y a effectivement des choses comme ça visant à vous disqualifier, c'est de l'ordre de l'insupportable. Je suis d'accord avec vous.
Bah, c'est ce que j'ai reçu la semaine dernière, et c'est pour
oui,
ça que
mais
je vous
ça,
ai
il faut monter au, il faut monter au créneau, parce que c'est de l'ordre de l'insupportable. Et là, dire dans ces cas-là, quitte à demander une enquête et une expertise psychologique. Voyez, vous avez raison là de ne pas vous laisser faire, et à ce moment-là, peut-être dire. Qu'on dise à votre ex-femme, bon, on a enquêté, les faits, vos allégations sont fausses. En revanche, on comprend bien que vous êtes dans une grande souffrance et il faut que vous vous fassiez aider. C'est bon. Vous voyez, il y a d'autres angles. Et par rapport à ça, il faut, je comprends que vous ayez recours à une association que vous fassiez aider et soutenir, parce que c'est vrai qu'il y a, ça va très loin. Je l'entends. Joseph, avant, d'abord, c'est vous le Joseph des
oui,
messages hors jeu, petit joueur. Bah, écoutez, je suis ravie de vous entendre et merci pour la qualité, hein, de vos messages, vraiment, de vos réflexions. Ouais. Comment ça va avec vos enfants aujourd'hui ? Je crois que vous avez 2 filles, donc...
Ça va très bien, et puis on en parle, parfois on parle de ça, et c'est vrai ce qui est dur. Alors moi, je n'avais pas la donnée dont parle Pascal.
Oui, moi non plus, c'est l'histoire des mauvais traitements, que la mère dirait qu'il y aurait des mauvais traitements. C'est insupportable.
Je vais peut-être un peu loin, mais alors qu'il demande la garde carrément, parce que...
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, non, vous n'allez... C'est vrai que dans un tel contexte, vous avez raison, c'est très juste, encore une fois. C'est si vraiment la mère a des... Enfin, si on est dans de fausses accusations, c'est très grave. Et dans ces cas-là, ça vous met même, vous, en disant, la maman... souffre de problèmes psychologiques, ça peut arriver, il ne s'agit pas de la disqualifier, elle a besoin d'aide et pour le moment, je préfère, effectivement, il serait mieux d'avoir la garde de mes enfants. Ça serait, et c'est vrai, c'est très logique. Vous voyez, c'est un argument presque... il peut y avoir une enquête et dire dans ces cas-là, écoutez, la maman est fragile et pour le moment, je demande la garde de mes enfants. C'est très juste.
On m'a déjà parlé de cette possibilité. Bon, alors, entre-temps, bah, vendredi, je téléphonais à des services sociaux pour qu'ils viennent à la maison constater vraiment le bonheur des enfants. Je peux vous assurer qu'on passe vraiment des moments extraordinaires. Et parce que c'est insupportable. Enfin, vraiment.
Non, mais j'entends que c'est insupportable, mais il faut que vous soyez bien conseillé par votre avocat, là. Parce qu'à un moment, soit on demande et il y a une enquête sociale. Il y a une enquête sociale.
En fait, vous avez peur pour vos enfants ? C'est la question, en fait, je ne sais pas.
Alors, moi, j'ai peur pour mes enfants à moyen et long terme, oui, parce qu'elle les isole complètement, enfin, notamment de leur père, de leur famille, du papa. Enfin, c'est une galère comme c'est pas possible de les avoir au téléphone. Quand je les ai au téléphone, ils sont systématiquement sur écoute, sur haut-parleur, ils me le disent tout le temps. Il y a mon fils qui m'a dit en octobre qu'ils avaient vu une dame et que leur maman leur avait demandé de raconter des choses qui n'étaient pas vraies.
Alors, pour l'avoir vécu, je peux vous dire, alors à ce moment-là, je sais pas Caroline ce que vous en pensez, mais c'est de l'urgence parce que, ils ont 6 ans.
Et en 6 ans. Bah,
ouais, vous imaginez ce qu'ils sont obligés de faire dans leur tête. Enfin, ça va pas.
C'est insupportable. Pour les enfants, c'est insupportable. Là, si vous voulez, là, c'est pas une bataille qui doit durer autour de gardes alternées ou quoi. Vous nous donnez effectivement des éléments là où là, je considère qu'il y a finalement, enfin, pour les enfants, il y a une notion de danger psychologique et là, il faut demander une expertise et même à ce moment-là, voir avec un expert psychiatre. Vous voyez, il faut arrêter de se battre pour la garde alternée. La question, elle est pas là. Parce que si les enfants sont pris, parce que encore une fois, il y a une grande souffrance chez la mère, mais enfin, c'est pas possible, parce que ça leur fait faire. Enfin, si on leur raconte que chez papa, finalement, il se passe des choses mauvaises, que vous êtes mauvais pour eux et tout, enfin, ils ne sont pas en mesure. Si vous voulez, ils vous aiment, ils aiment leur mère, ils sont ballottés entre les deux. Il y a vraiment là, quitte à, enfin, demander à ce moment-là, demander une enquête sociale, une expertise. Donc, il y aura une expertise des deux parents et que les enfants soient vus par un pédopsychiatre qui ait des experts, des rapports et en fonction de ça, le juge aux affaires familiales tranchera. On n'est plus du tout dans le registre de la garde alternée, là. Ça se joue à un autre niveau. Voilà. On va marquer une petite pause.
Oui, d'accord.
Et puis, on accueillera également Véronique qui est avec nous et qui voulait témoigner des répercussions que ça peut avoir même pour la suite et pour la construction psychologique des enfants. Donc vous restez bien avec nous, Pascal, vous avez encore un peu de temps.
Oui, tout à fait. Ah bien sûr, bien sûr.
Joseph, peut-être que vous voulez rester ou...
Non, mais juste, non. Vous avez raison. Derrière, Pascal, c'est 22 ans d'analyse. Hein. Non, mais c'est vrai.
C'est dit avec humour, mais je peux vous dire que des personnes.
C'est pas rigolo.
Non.
Franchement.
Ouais. Non. Ça peut faire des dégâts.
Quand on commence à 4, 5 ans, 6 ans, vous faire, si vous voulez, prendre un rôle, en fait, faire attention à ce que disent les adultes, c'est terrible.
Oui. Et il y a effectivement ce qu'on dit quand on est chez papa, il y a ce qu'on dit quand on est chez maman.
C'est terrible.
Les enfants, eux. Ils ont le droit aussi de pouvoir grandir dans un environnement où finalement leurs parents ne sont pas constamment en train de se dénigrer et de se construire.
Vous avez dit que vous étiez au milieu, mettez-les au centre, voilà.
C'est très juste. Je m'incline, Joseph. Vous faites mon superviseur là. On sent, il y a 22 ans d'analyse derrière.
Ben oui, d'accord.
Que voulez-vous, ça s'entend.
Non, mais on rigole, mais c'est pas drôle. Hein.
Non, c'est pas drôle
c'est
du
pas
tout.
Drôle,
et c'est pour ça que moi je monte très vite au créneau sur ces questions-là d'enfants.
Et Véronique, je pense qu'elle va vous le dire.
Oui,
enfin, j'imagine.
On va l'écouter après.
Avis.
Oui. Il faut faire très attention là. C'est de pas hypothéquer leur avenir. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Merci infiniment, Joseph, pour tout, pour votre intervention ce soir et pour vos messages toujours très éclairants.
Merci pour votre présence.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Un petit peu de musique et puis on se retrouve, on accueillera Véronique.
22h, minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Avant d'accueillir Véronique, vos messages, c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir et évidemment qui concerne beaucoup de personnes qui se trouvent dans ces situations. Alors parfois avec du recul comme Joseph et puis parfois vous êtes en plein dedans. Il y a quelqu'un qui me dit, pour moi c'était l'inverse, c'est leur père qui instrumentalisait nos enfants me faisant passer pour une mauvaise mère. Alors quelqu'un qui me dit aussi divorce, garde d'enfants alternée, médiation familiale, je vous en conjure, ne me parlez pas déjà au printemps de ces choses-là. Pour travailler au tribunal de grande instance à Paris 17e, ces dossiers explosent au mois de septembre, au retour des vacances. Et oui, il paraît que c'est au retour des vacances que les gens demandent le plus le divorce. Vos réactions également sur notre page Facebook, Paul ?
C'est surtout sur la façon dont ça a été vécu par les gens lorsqu'ils étaient enfants, divorce de leurs parents.
C'est très intéressant d'entendre.
France qui dit, voilà ce que j'ai vécu, moi, en tant que, à la fin de l'adolescence, en tant que pré-ado, ado, 10 ans de déchirure entre mon père et ma mère. Ils étaient intelligents, pourtant, l'un et l'autre, mais ils m'ont oublié dans leur histoire. Il faut que les enfants soient suivis en thérapie, c'est vital pour la suite. Et il y a Dominique aussi qui dit, oui, votre enfance vous poursuit toute votre vie. Les enfants trinquent aussi toute leur vie par la suite quand les parents ne pensent qu'à eux. Les enfants ne doivent pas devenir un enjeu du divorce.
Tellement juste. C'est ce que disait Joseph, finalement. Les enfants sont au milieu, il faut les remettre au centre. On va accueillir Véronique. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Pascal est là, je vous remercie oui. également Pascal. Hein. Il y a beaucoup de réactions. Véronique, vous, c'est votre sœur qui a vécu cela avec votre beau-frère, ex-beau-frère, et vous en voyez les conséquences aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, moi-même, je suis divorcée de plus de 30 ans en arrière. J'ai une fille, mais mon divorce ne s'est pas du tout passé de la même manière que celui de ma sœur. Ma sœur, ça a été une guerre permanente, tout le temps et permanente, où en fait, effectivement, ça va... Je voudrais pas que le monsieur prenne mal...
Il vous écoute, Pascal, il est là, il vous le dira, s'il n'est pas d'accord.
Je voudrais pas qu'il prenne mal, parce que... chacun fait comme
bien sûr, c'est pas l'histoire de Pascal. Hein. Il fait ce qu'il peut, Pascal, dans ce contexte bien difficile.
Voilà, tout à fait. Mais effectivement, dès lors que on continue, que le couple continue à se faire sa propre guerre, sans jamais, en quelque sorte, penser aux enfants. C'est-à-dire que, au début, quand j'entendais ce monsieur Pascal, j'étais un peu comme vous, Caroline. Je montais un peu au créneau rapidement parce que je me disais, mais il faut juste changer un peu de paradigme. C'est-à-dire que si les enfants ont 5-6 ans, alors les parents s'arrogent le droit de quelque chose sur les enfants. C'est-à-dire que, je vais exagérer exprès un petit peu, mais ils sont encore une chose, et comme une petite chose ou comme un petit objet, et on peut dire, eh ben moi je le veux en garde alternée, je le veux comme ci, je le veux comme ça, c'est mon droit, je le revendique, machin, et trucs bûches. Mais sauf qu'il faut penser, et donc pendant ce temps-là, on continue à travers ça, à faire la guerre à sa femme ou à son mari ou à son ex, voilà, et on ne fait que ça.
Ou à son histoire, ou à ses propres parents, il y a des choses qui peuvent se rejouer.
Peut aller loin. Parce que tant qu'il n'y en a pas un qui décide de l'arrêter, la guerre, la guerre, elle peut continuer très longtemps. Pour que la guerre s'arrête, il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui décide vraiment que la guerre, ça y est, il va l'arrêter, lui. Et il va passer par d'une toute autre façon, il va l'arrêter. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut penser qu'un jour, ça a été le cas chez ma sœur, justement, c'est que ces enfants grandissent. Et un jour, ils n'ont plus 6 ans, ils n'ont plus 10 ans, ils n'ont plus 15 ans. Ils ont 18 ans, ils se marient eux-mêmes, ils ont des enfants. Et moi, aujourd'hui, j'ai des nièces de 45 ans et qui ont vécu tout ça, hein, ce divorce et toute cette guerre.
Quelles répercussions, cela?
Eh bien, les répercussions, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont décidé de rompre, eux, avec leurs parents. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui deux nièces qui ne veulent plus voir leur mère et qui lui disent ben maintenant tu vas te faire soigner maman, c'est-à-dire tu vas voir un psy, tu vas passer puis tu vas passer toute ta vie en revue, puis tu nous expliqueras le soir à la chandelle quand tu seras bien vieille, ben pourquoi on a dû subir ça. J'ai vu même le jour du mariage, ma nièce elle pouvait même pas se marier parce que les deux parents ne voulaient même pas se voir le jour du mariage.
Oui, tant d'années après, finalement.
Voilà, elle est obligée de faire deux jours de mariage séparés. Oui. Mais on va où, là? Moi, un jour, j'avais dit à ma sœur, mais tu vas, entre guillemets, excusez-moi ma vulgarité, mais je lui avais dit, mais tu vas les faire chier jusqu'à quand, tes enfants?
Oui, je comprends. Oui.
Le mariage, ça ne suffit pas. Oui. Un jour, ils auront des enfants, ils voudront peut-être les faire baptiser ou je ne sais quoi, et tu ne seras toujours pas présente. Parce que tu voudras soi-disant pas voir un homme avec lequel tu as passé un peu de temps dans ta vie. Un homme qu'un jour tu as choisi d'ailleurs, que tu as aimé d'ailleurs. Il faut peut-être pas renier.
Vous avez raison de dire ça, parce qu'on entend souvent en analyse des personnes nous dire comme ça, dont les parents étaient un couple très conflictuel et parfois pas toujours séparés, parce qu'on voit, il y a des, comme vous dites, des divorces qui sont préférables parfois quand ça se passe, enfin quand on arrive à trouver un terrain d'entente, à des situations où les parents ne se séparent pas, mais se disputent constamment, et où en fait, pour les enfants, je vois des adultes dire, ils ont le sentiment que leurs parents ne se sont jamais aimés. Et ils se posent des questions sur la légitimité de leur existence, de leur vie, et c'est horrible d'être venu au monde de deux êtres qui se haïssent tant. Et à un moment, il faut reprendre les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu de l'amour. Mais ça marque ça très profondément. Et c'est d'une injustice terrible pour un enfant de se dire, au fond, d'être au milieu de parents ensemble.
De quoi? Je suis issue d'une guerre ou d'un amour, au final?
Oui.
Mais enfin, c'est quoi ce délire? À un moment donné, pour nos propres guerres intestines, on délire totalement, quoi. Et je, la dernière chose, je ne veux pas rester à l'antenne des minutes durant, mais la dernière chose que je voulais dire à cet homme...
Il est là, Pascal, hein, il vous écoute. Mais, vous êtes là, Pascal?
C'est que, comment dire, je ne sais pas très bien lui exprimer, mais c'est que s'il ne veut pas perdre ses enfants un jour,
oui.
Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mmh. Ma sœur, elle l'a perdu, sa fille. Elle a perdu ses deux filles pour l'instant, quoi. Et c'est bien plus tard. Hein. Eh bien, s'il ne veut pas les perdre, ses enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir... Ils auront besoin d'en avoir au moins un des deux qui, lui, n'aura pas mené la guerre. Et donc, c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin, comment dire, ils ne vont pas mesurer le temps. Ils n'ont pas besoin, il vaut peut-être mieux que ce papa passe son temps actuellement, aujourd'hui, à éteindre cette guerre, à l'éteindre, même s'il n'avait pas la garde tout de suite de ses enfants. Mais peut-être à l'éteindre et à faire en sorte qu'un jour il n'y ait plus du tout de guerre, et ce jour-là, il retrouvera ses enfants sous un tout autre mode. Même si pendant 3 ans, il a pas vu ses enfants sous la garde alternée à laquelle il tient tant aujourd'hui. Enfin, quand j'ai voulu intervenir, je n'avais pas entendu les derniers éléments.
Et oui, c'est ça, les derniers éléments que vous nous avez donnés, Pascal, font basculer les choses.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est même plus tant une question de garde alternée que de voir au fond qu'est-ce qui se passe, dans quoi les enfants sont pris exactement, parce que quand un des parents... avoir de la rancœur pour le conjoint, c'est une chose. Le disqualifier et le faire passer aux yeux des enfants pour un père maltraitant ou un père abuseur, ça, c'est extrêmement grave. Ça, on est vraiment dans quelque chose sur un plan psychologique d'une extrême gravité. Et là, il est important de réagir. Alors, pas au niveau des enfants, mais c'est-à-dire dans ces cas-là, déjà, puisque c'est vraiment sur un plan légal d'être bien défendu et de demander une expertise.
J'entends bien, Caroline, mais vous savez, on ne sait pas jusqu'où la guerre peut mener.
Ah oui, mais en même temps.
C'est-à-dire jusqu'où la guerre peut faire dire des choses à l'un ou à l'autre.
Oui, mais là, on est dans quelque chose plus de l'ordre. Oui, si vous voulez, il y a eu des situations, moi, pour avoir travaillé. Dans une association s'occupant d'enfants victimes de mauvais traitements, j'ai vu passer des enfants, enfin, dont les mères, parce qu'à ce moment-là, il y a eu un moment où on parlait aussi beaucoup, on en reparle aujourd'hui, et d'ailleurs c'est très bien, parce que malheureusement c'est une réalité d'affaires d'inceste, où il y a eu de fausses accusations portées sur des pères. Et où ça a fait des dégâts, je dirais presque irréversibles, sur le lien père-enfant. Et là, il est important que le père se défende. Et d'ailleurs, au départ, il y a même eu certaines mères qui ont été condamnées. Parce que les magistrats reconnaissaient le tort qui avait été porté, évidemment, au père, accusé de choses horribles. Mais le tort aussi qui avait été porté aux enfants. Parce que quand on met dans la tête des enfants que le père ou la mère, d'ailleurs, peuvent faire des choses monstrueuses ou sont monstrueux, ça crée des dégâts psychologiques. Donc là, il est important vraiment de se défendre pour soi-même, mais avant tout pour les enfants. Vous voyez, il y a des degrés. Et c'est pour ça que finalement, au vu de notre échange, Pascal, et en conclusion... Le problème, il n'est pas tant au niveau de la garde alternée, je dirais, aujourd'hui. Parce que si vraiment votre ex-femme fait porter de telles accusations sur vous, il est non seulement normal, mais légitime que vous vous défendiez et que vous protégiez vos enfants. Parce qu'elle ne mesure même pas forcément le mal qu'elle leur fait et elle rejoue certainement inconsciemment quelque chose de son histoire à elle où elle parle d'une violence familiale qui aurait eu lieu. Et ça, il faut à tout prix. C'est pas la justice qui... La justice, elle ne traite pas les problèmes psychologiques. Ouais. Mais en revanche, elle peut dire « Bon, madame, on a enquêté, vos allégations sont fausses, vos accusations graves sont fausses, et là, vous avez besoin de soins. » Et pour l'avenir de vos enfants, ça serait mieux aussi, et finalement de la mettre face à cela. Donc vous voyez, on n'est plus du tout au niveau de garde alternée à la mère ou à vous. Je trouve qu'on a franchi un cran au vu des données que vous nous donnez. Maintenant, nous, on n'est pas ici, moi je ne suis pas juriste, on va pas, votre dossier, on ne le connaît pas, mais en revanche, si vous êtes victime de telles accusations, là, il faut vous défendre, il faut que vous soyez bien défendu par votre avocat et demander une enquête sociale et des expertises.
D'accord. Alors, en fait, pour conclure quand même, si j'insiste à chaque fois sur le terme garde alternée, c'est parce que je pense que la mère est très importante pour les enfants. Enfin,
mais oui, mais vous voyez comme vous êtes ambivalent et contradictoire. Oui, la mère en général. Si un parent est défaillant, soit parce que, défaillant parce qu'il a des difficultés psychologiques ou des troubles psychiatriques, il relève du devoir de l'autre parent d'en faire part pour protéger les enfants. Pas pour accabler son ex-conjoint, mais pour protéger les enfants. Ouais. De la même façon, donc la mère en elle-même, je ne voulais pas vous dire, si la mère malheureusement peut être prise dans une histoire infernale, peut souffrir de troubles psychologiques ou encore une fois de troubles psychiatriques, et il ne s'agit pas de dire dans ces cas-là, si c'est important qu'ils voient leur mère. En tout cas, il ne s'agit pas de l'exclure, mais il s'agit de dire, pour le moment, il faut peut-être les protéger.
D'accord.
Vous voyez, c'est vrai que là, les dernières informations que vous donnez peuvent changer la donne et il faut à ce moment-là, je vous le redis, que vous soyez faire porter ces nouveaux éléments auprès du juge et qui, lui, ne comprenant pas ce qui se passe, eh bien, il fera intervenir des intervenants sociaux, des experts psy pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Malheureusement, d'accord. Quand on est dans ce genre de situation.
D'accord. Écoutez, merci bien pour toutes ces informations. Je vais bien évidemment réécouter tout ça à tête reposée.
Vous pouvez réécouter en podcast. Alors encore une fois, toutes ces informations pour moi sont mises au conditionnel parce on ne traite pas d'une affaire de justice à la radio. Oui, ce sont des informations qui sont données sur un plan général, mais c'est vrai que au vu de ce que vous nous avez dit à la fin, à mon avis, l'angle est différent. Donc, vous défendre vous, mais peut-être aussi protéger vos enfants qui sont pris dans ce tissu d'accusations et fortement préjudiciable aussi pour eux, parce que ça renvoie une image de vous, leur père, catastrophique. Et c'est préjudiciable pour leur construction. Voilà.
D'accord, écoutez, je vous remercie bien, Caroline. Je remercie aussi les différents intervenants.
Moi aussi, Véronique. Je remercie beaucoup, évidemment, Joseph qui est intervenu, vous, Véronique, merci beaucoup. Et puis tous ceux d'entre vous, et vous avez été très nombreux à vous manifester, et par SMS, et sur notre page Facebook. C'est un sujet qui vous a fait beaucoup réagir. Et si seulement on pouvait un peu penser davantage aux droits des enfants aussi et à leur intérêt et les remettre au centre tout simplement. Merci beaucoup, bon courage à vous Pascal. Merci Véronique. Caroline. Au revoir.
Je vous en prie, Caroline. Au revoir.
Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.